Le retour.
Méfiez-vous.
De Radio X.
C'est un conseil. Un conseil d'ami que je vous donne.
En vacances.
Radio X.
Actualité scientifique.
La microbiologie, la chimie, la science en général.
Avec Marc Hamilton, microbiologiste.
Arrête de parler, toi. 15h37, vous écoutez le retour de Radio X avec Jordan, Mel et Louis. On est là pour quoi, deux semaines encore? Je pense que Mel tombe en vacances dans deux semaines. Ce sera une autre Mel, de toute façon, qui va être là. Faut que ce ne soit pas trop mêlant pour les auditeurs. On est ensemble jusqu'à 18h pour nous écrire, pour nous texter. Faites-le comme dans la dernière demi-heure concernant notre sujet du Vieux-Québec qui sera barré pour les chars dans pas long. Hein, c'était le fun de vous lire. 418-670-9098. Bien content d'aller jaser avec notre microbiologiste préféré que vous entendez une fois de temps en temps dans le retour de Radio X avec DH, Marc Hamilton, qui est avec nous autres. Salut Marc, comment ça va?
Hey, comment ça va vous autres?
Ça va très bien, t'es dans quel coin là, mon Marc?
Là, présentement, ben, je suis à mon laboratoire de Longueuil, présentement. C'est une journée de pas de télétravail, mais il faut bien une fois de temps en temps je me déplace, voir mes gens là, dans mon plus gros lab qui est basé à Longueuil. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée de rencontre puis d'aller voir nos confrères.
T'aimes-tu ça aller à Montréal? Pas moi.
Ben, écoute, j'y vais beaucoup moins souvent qu'avant, ouais. On s'entend. Mais oui, j'aime ça parce que, écoute, c'est voir la gang ici. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça a beaucoup facilité les choses, les Teams puis les Zooms, là. On fait 80 % du temps en Zoom, mais il faut gagner un petit 20 % de voir un face-to-face, là. Mais on est à Longueuil. L'avantage, c'est que j'ai pas trop de trafic. Moi, tu sais, je pars de Québec, puis on prend juste la sortie de Mortagne avant d'atteindre le pont-tunnel. Donc, on n'est pas trop dans le trafic quand on va à Montréal. C'est ce qui aide beaucoup.
OK, ça c'est pas pire. Puis dans le coin de l'Alberta, me semble, t'as des labos là. Et tout ça, tu vas aller au BC. C'est-tu prévu cet été que t'allais faire un tour dans ce coin-là?
C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y a deux semaines, on est allé voir nos confrères à Edmonton. Puis, fait que notre tournée des Grands-Ducs dans l'Ouest canadien est déjà faite. Fait que là, on est plus en mode préparer les vacances. Parce que nous, ce qui arrive, c'est que durant l'été, beaucoup de nos confrères tombent en vacances. Donc, faut garder le château fort, les opérations. Et c'est un peu le rôle qu'on a là, d'ici la fin des vacances, d'ici la fin d'été.
Je veux t'entendre sur les cas de rougeole qui sont sortis dans le coin de Portneuf dans les derniers jours. Puis ça inquiète bien du monde. Là, on a eu une éclosion. Ça a été confirmé par la direction de la santé publique dans le coin. Parle-nous de ça. T'as-tu une certaine inquiétude sur comment ça va virer, cette histoire-là?
Ben, écoute, grosso modo, si je vous fais un petit anamnèse de ces fameuses cinq personnes-là qui ont eu la rougeole quasiment en même temps. Tu sais, le premier cas a été déclaré le 28 juin et les deux premiers cas le 28 puis les cinq derniers la semaine dernière. Écoutez, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que c'est sûr que si vous n'avez jamais été vacciné contre la rougeole, peu importe l'âge que vous aviez, vous restez excessivement à risque de l'attraper présentement. Parce que les deux cas, le premier cas qu'il a attrapé, a fait un voyage international. Donc, il faut penser que la rougeole est endémique. Quand on parle d'un virus endémique, c'est un virus qui court, là, que les gens sont très peu de gens vaccinés. Quand on va, par exemple, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, c'est des endroits où est-ce que la vaccination n'existe à peu près pas, donc on appelle ça un virus endémique. Donc, si quelqu'un aime faire des voyages internationaux puis qu'il va passer du temps là-bas, il y a des chances qu'il attrape la rougeole puis qu'il amène ça ici au Canada dans son retour. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, la personne dans la région de Portneuf a voyagé, est arrivée ici. La personne qui l'accompagnait n'était certainement pas vaccinée. Elle l'a attrapé. Et quelque chose qui a été intéressant dans ce cas-ci, c'est que les cinq autres qui l'ont attrapé, Ils ont été capables de se surveiller d'avance. Parce que comment ça fonctionne? Bien souvent, on voit des gens qui ont des virus, qui attrapent le virus de la rougeole, puis on se dit, écoutez, cette personne-là est allée à la banque, est allée dans un magasin, dans un restaurant. Donc, si vous avez été telle heure, telle date dans ces endroits-là, vous avez peut-être été en contact avec le virus. Bon, moi, ça m'impressionne tout le temps de dire telle heure, telle date, si vous avez été là, vous avez peut-être été exposé. La raison scientifique est la suivante. Quand quelqu'un a la rougeole, juste sa respiration, okay, le fait qu'il respire, pas besoin de tousser, juste parler, respirer, il y a un dégagement de virus qui s'en va dans l'air. Et ce virus-là peut rester 2 heures en suspension dans l'air. Donc, même si la personne ne fait que de passer, donc, partout ce qu'elle a passé, le virus peut rester en suspension 2 heures de temps, qui fait que toutes les personnes qui ont fréquenté au même moment, au même endroit, sont susceptibles d'avoir été en contact avec le virus. Donc, une personne qui n'a jamais été vaccinée pourrait développer la maladie. Et les 5 cas qui ont tombé positifs quelques jours après, c'était des gens qui ont suivi, du moins, les endroits que cet individu-là, porteur initial, avait.
Oui, parce que j'ai vu qu'il avait fréquenté 3-4 magasins là, avant de confirmer son cas. Là.
Exactement. Et c'était des gens qui étaient déjà en quarantaine préventive. De sorte qu'ils avaient été fréquentés, ces endroits-là, et quand ils ont été jugés positifs, donc c'est quand même pas long après avoir été en contact avec le virus, ben ils s'étaient déjà mis en quarantaine à la maison, de voir le moins de monde possible. Donc, ce qui fait que ça a limité ce cas de figure-là à se spreader l'expression, ouais, ailleurs. Donc, c'est ce qui fait que la santé publique a quand même bien fait son travail pour éviter du moins les endroits où est-ce que ces gens-là auraient pu fréquenter durant qu'ils étaient positifs à la rougeole.
Mais depuis 70, on reçoit là, généralement, en tout cas, monsieur, madame, tout le monde, on devrait avoir reçu au moins une dose du vaccin. Est-ce que ça, c'est pas supposé nous protéger?
Bien, absolument. Donc, c'est sûr que la vaccination large spectre au Québec, comme tu le dis, Mel, de 1970 à 1980, tout le monde avait, à l'âge d'un an ou 18 mois, une dose du vaccin de la rougeole. Et à partir des années 80, bien là, c'était 2 doses. Une dose donne environ 80-85% de protection et 2 doses, c'est de 95 à 100% de protection et ça pour toute votre vie. Et donc, et pourquoi 70? Pourquoi les gens qui ont été nés avant 1970 n'ont pas besoin d'être vaccinés? C'est la simple et bonne raison qu'avant 1970, le virus de la rougeole au Québec, au Canada, c'était un virus qui était endémique. Donc, tout le monde l'attrapait. À quelque part, tout le monde a été exposé avant 1970, ce qui fait que les gens l'ont soit déjà attrapé ou été exposés, ce qui fait qu'on a été immunisé avant la vaccination.
Puis côté symptômes, ça ressemble à quoi, pour les gens qui ne savent pas pantoute?
Oui, pourquoi c'est si grave?
Oui.
Bien, il y a plusieurs phases à ça, puis je vais vous expliquer pourquoi ça peut être dangereux. En partant, si je vous dis un peu les symptômes, c'est qu'au début, c'est des symptômes grippaux un peu. On va faire de la fièvre, on va faire des éternuements, on va tousser, on va avoir de grosses faiblesses, on va être fatigué, comme si un train nous avait passé dessus. Et ça dure environ 4 jours. Après 4 jours, c'est là que les fameuses petites pustules vont commencer. La rougeole en tant que telle, qu'on appelle. Donc, c'est quoi? Ça commence toujours, bien souvent, dans la bouche. Vous allez avoir des petits bobos dans la bouche, des espèces de petits boutons blancs qu'on appelle des pustules de coplique. Et ça commence comme ça. Et après, ça commence dans le visage, le cou. Ça va... c'est comme des petites taches... Ça ressemble... C'est pas nécessairement la varicelle, là, mais vous irez voir des images sur Internet, c'est assez évident. Ça va aller sur le cou, après ça, les bras, le corps, les jambes. Donc, ça peut être systémique comme un endroit en particulier sur le corps. Et ça va durer un autre bon 4 à 5 jours, et des fois un petit peu plus. Mais la maladie, elle est très infectieuse 4 jours avant l'apparition de ces petites taches-là et 4 jours après la première apparition. Donc, vous êtes très contagieux pendant au moins 8 jours. Et après, ben, le système immunitaire fait son effet. Ce qui, jusqu'à là, c'est des symptômes bénins, en guillemets. Pour certaines personnes, et c'est là un peu les personnes les plus à risque, bon, c'est les très jeunes enfants. Donc, les enfants en bas d'un an qui n'ont jamais été vaccinés. Donc, ça peut créer des pneumonies sévères. Donc, à ce moment-là, des problèmes respiratoires qui fait que ça peut créer des complications. Et c'est là que le taux de mortalité est le plus élevé chez les très jeunes enfants. Donc, les gens, bien souvent, se doivent aller à l'hôpital, avoir un support médical pour s'assurer que l'enfant n'ait pas de difficultés pulmonaires. Par contre, une personne de notre âge, OK, dans trentaine, dans quarantaine, dans cinquantaine, qui n'a jamais été vacciné et qui attrape la rougeole, c'est pas plus facile pour eux aussi. Donc, il y a des gens qui vont développer vraiment une grippe très sévère. et qui va donner des pneumonies sévères aussi, qui pour les gens qui sont les plus démunis, du moins qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, des problèmes XYZ, des problèmes immunitaires, peut s'avérer vraiment très difficile. C'est pas nécessairement mortel, mais c'est très difficile. C'est une maladie qui peut être assez longue, qui peut durer quelques semaines avant que l'individu redevienne en santé. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile pour les personnes un petit peu plus âgées, peu importe l'âge. C'est une maladie que c'est comme si un train vous avait passé dessus. C'est sûr qu'il y a des individus pour qui la rougeole, ça va être très simple, donc les boutons, la fièvre et tout ça. Mais il y en a d'autres, pourtant, qui peut y avoir des complications qui peuvent devenir de plus en plus sévères.
Puis est-ce qu'il y a des souches qui sont apparues au fil des ans ou ça reste pas mal dans les mêmes eaux à chaque fois qu'on entend parler des cas de rougeole qui sortent un peu partout au Québec?
La bonne nouvelle, c'est que la rougeole, ça existe depuis le Moyen Âge. C'est quand même un virus qui est plusieurs centaines d'années qu'il existe. Heureusement, c'est un virus qui ne s'est jamais vraiment muté. T'sais, on est habitué de voir avec la COVID, il y a une mutation, c'est Omicron, le vaccin va durer 6 mois, il faut recommencer après. On n'en est pas là et c'est la bonne nouvelle. La rougeole est présentement, en tout cas à ma connaissance, un sinon le virus le plus contagieux sur la planète. Une personne positive, OK, peut en contaminer entre 12 et 18 personnes autour de lui. Et comme je vous disais, le virus reste longtemps en suspension, donc même si on n'est pas là, on peut rester contaminé la pièce. Et l'avantage, c'est parce qu'il n'a pas créé de mutation, OK? C'est à peu près le même virus qui a toujours existé. Les vaccins fonctionnent longtemps, de sorte que notre système immunitaire va garder une bonne mémoire de ce vaccin-là qu'il a eu à la naissance, ou du moins entre 12 et 18 mois, qui fait que toute notre vie, si on rentre en contact avec le vaccin, très, très, très peu de chances qu'on développe la maladie.
On nous demande par texto, Marc, si c'est vrai qu'il peut y avoir de la perte de vue ou des trucs de même suite à des complications de la rougeole, même des histoires. J'avais déjà entendu parler des affaires, des dommages qui peuvent arriver au cerveau. C'est vrai, ces histoires-là? J'imagine que c'est des cas assez rares.
C'est des cas plus rares, effectivement. C'est plus rarissime, ce qu'on appelle créer des encéphalites. Okay. Autrement dit, c'est une inflammation du cerveau qui peut créer des conflits, des inflammations des méninges, si on veut, qui peut créer des complications, qui peut donner justement des problématiques. Bon, là, on parle de vision, c'est pas impossible. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de paralysie par la suite, des problèmes de complications cérébrales. Ça va arriver chez les jeunes enfants, les encéphalites, beaucoup. Chez les adultes, un petit peu plus rare, mais c'est pas exclu. Donc, ça, c'est quand que vraiment on était vraiment au bout, donc on a eu une pneumonie, problème pulmonaire, et là, on est rendu qu'on n'a pas réussi à passer au travers de la rougeole, et il y a un risque d'encéphalite qui peut arriver dans des rares cas, mais oui, et c'est là que le taux de mortalité peut être encore plus élevé.
Donc, on va suivre ça, en tout cas, 5 cas dans le coin de Portneuf, qu'on a entendu parler pas mal de ça dans les derniers jours. Parlons maintenant, Marc, de baignade. Hein. C'est le temps de se baigner, s'assurer que l'eau est correcte, l'eau n'est pas contaminée. Oui, il y a l'eau de piscine, il faut que tu fasses tes traitements sur le sens du monde, mais les gens qui se déplacent à la plage, pas des problèmes X, Y, Z reliés à ta baignade. Tu penses que ça a bien été, puis après ça, il y a d'autres problèmes qui arrivent.
Bien, vous savez, cette année, le gouvernement a laissé tomber un programme de tester les plages publiques qui s'appelait Environnement en plage. C'est un programme qui existe depuis, je veux dire, une vingtaine d'années, sinon plus, qui recensait environ une soixantaine de plages au Québec, les plus communes. Donc, c'était pas nécessairement toutes les plages, et qui analysait entre juin et août, périodiquement, au moins une fois par mois, aller vérifier si l'eau contenait des bactéries, exemple E. coli, par exemple, qui pourraient coter la plage de l'eau de baignade entre A et D, D étant une plage interdite à la baignade parce qu'elle contient un trop grand nombre de E. coli. Bon, ce programme-là, le gouvernement a mis fin cette année. Donc, les gens étaient habitués de regarder est-ce que ma plage est baignade. Il y avait toujours une affiche qui disait c'est une plage qui est baignade, ou même disponible en ligne, qui disait, bon, cette plage-là est baignade, elle est bonne pour la baignade, elle a été testée, blablabla. Mais là, cette année, c'est plus les municipalités ou les gens qui gèrent les plages publiques qui se doivent de faire leur propre analyse et de déterminer si une plage est baignade ou pas. Cependant, bon, dans le cas qu'on arrive dans une plage et qu'il n'y a pas d'indication qu'elle est baignade ou qu'elle est bonne à se baigner ou pas. On a eu des temps très chauds dernièrement. On a eu des pluies torrentielles aussi qui est arrivées. On a eu un melting pot de météo qui fait en sorte que les eaux de baignade peuvent être affectées beaucoup par la quantité de bactéries qui fait qu'elle est non baignable.
C'est-tu les fameuses marques algues bleues qu'on a entendu parler longtemps au Québec, il y a peut-être une dizaine d'années à peu près, là, ça faisait beaucoup manchette dans l'actualité?
Effectivement, les algues bleues, c'est principalement retrouvé dans des lacs. Okay. Dans des lacs où est-ce que sont beaucoup habités. Donc, les algues bleues, c'est une algue bleue verte. Autrement dit, que lorsque vous voyez ça, une espèce d'eau qui est verte, avec un petit peu de végétation qui est verte à la surface de l'eau, dès que vous voyez ça, l'eau n'est pas baignable. Elle n'est pas dans un lac que vous voyez des algues bleues vertes parce que ça dégage des toxines. Et si vous rentrez en contact, ne serait-ce que l'eau rentre dans vos oreilles, quand vous en buvez une gorgée, vous pouvez être sévèrement malade. Et la même chose pour vos animaux. N'envoyez pas un animal, un chien se baigner lorsqu'il y a un lac avec présence d'algues bleues vertes. Il y a encore quelques lacs, malheureusement. C'est des lacs qui s'eutrophisent. Donc, pourquoi l'eutrophisation? C'est, comme je vous disais, lorsqu'il y a une activité humaine autour d'un lac, où est-ce qu'il y a beaucoup de chalets autour, puis là, les gens vont arroser le pelouse avec des pesticides, des engrais, et ces résidus d'engrais-là peuvent atteindre l'eau. Et ce qui va eutrophiser les lacs, c'est qu'il va y avoir une végétation qui va s'installer au niveau de l'eau du lac. Okay. Et les algues bleues vont s'y installer et créer des toxines. Donc ça, c'est sûr et certain, juste en les voyant, pour moi, l'eau n'est pas baignable.
OK. Puis les administrations font-ils leur travail dans certaines municipalités? Si c'est plus géré au cas par cas, peut-être qu'il doit y avoir certains laissés-aller. Puis comme tu le mentionnais, il n'y a pas nécessairement d'affiches qui le mentionnent. Le monde se baigne là-dedans. Il faut quand même vérifier. Là, moi, je pense aux gens qui se baignent dans le bassin de Louis. C'est correct, on peut le faire officiellement, mais on dirait que j'ai comme un petit...
Une petite distance,
exactement, me baigner dans des lacs ou des fleuves demain.
Ce qui arrive, c'est que les lacs sont plus à risque que les rivières au niveau des baignades. Ou même le fleuve. Pourquoi? Parce que le lac, c'est au niveau de concentration des contaminants. Un lac, l'eau ne bouge pas. L'eau, c'est pas comme une rivière. Quand vous allez vous baigner dans une rivière, il y a toujours un courant qui fait que la rivière, les changements d'eau, l'eau se renouvelle, les contaminants ont le temps de se diluer, ils vont plus loin. Quand vous êtes dans un grand lac ou dans un étang, puis les gens se baignent, bien l'eau ne bouge pas beaucoup. Elle est au soleil, elle chauffe beaucoup. Les contaminants sont peu dilués. Et c'est là où est-ce que le niveau de bactéries peut augmenter. D'où viennent ces bactéries-là qui sont dans l'eau? Beaucoup viennent de l'activité des oiseaux. Donc, si vous êtes dans un lac qui a beaucoup d'activité de goéland, des oiseaux, donc des excréments de goéland, des excréments d'oiseaux contiennent beaucoup de bactéries de colis qui accentuent la contamination de l'eau. Aussi, lorsqu'il y a des fortes pluies, puis qu'il tombe, mettons, 30, 40, 50 mm de pluie dans peu de temps, ce que ça fait, c'est que ça draine les berges des lacs et ça va emmener aussi une quantité de bactéries qui vient des berges au niveau du lac et ce qui fait en sorte qu'on va avoir un niveau de bactéries fécales, de bactéries coliformes plus élevé et ce qui fait en sorte que l'eau devient moins baignable. Bon, pourquoi est-ce qu'elle est moins baignable? Bon, le fait d'avoir beaucoup de bactéries E. coli, notre norme au Québec est de ne pas dépasser 200 colonies de bactéries par 100 millilitres. C'est parce que si vous allez dans une eau et que vous emmenez des enfants avec vous, par exemple, qui commencent à nager, ces choses-là, bien, il ne faut pas en boire. Donc, c'est évident que si un enfant prend une gorgée, par inadvertance, ou...
Prendre des gorgées, les enfants, souvent, Marc, là.
Bien, c'est ça. Si vous allez dans un lac qui fait très chaud, il y a beaucoup d'activité, il y a exemple des oiseaux autour, etc., bien, il y a un risque que l'enfant soit en contact avec le coli en quelque ou une bactérie fécale. Si vous avez une plaie ouverte, donc ça peut accentuer l'infection. Donc, d'être dans une eau contaminée, ça fait en sorte que vous pouvez rentrer en contact plus facilement avec la bactérie, donc par les yeux, par les oreilles, le fait d'en avaler une gorgée, d'avoir une peau endommagée, donc ça peut être un point d'entrée de ces bactéries-là et vous causer une panoplie d'effets secondaires par la suite.
C'est vraiment difficile de prévenir là, pour un jeune enfant de prendre une petite gorgée sur le fly de l'eau stagnante.
T'as beau y dire, des fois, il va le faire. Ben
oui, absolument. Puis c'est arrivé dans ma famille, j'en ai déjà parlé. Là, il y a ingéré des parasites qui étaient dans de l'eau stagnante d'un lac. Puis on en parle peu, mais la bactérie mangeuse de chair, quand j'en ai parlé récemment, moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont contractée à différents degrés. Il y a des auditeurs aussi qui me disent l'avoir eu là, tout simplement en marchant dans le sable ou... Tu sais, c'est fou, là. Une plaie ouverte, une graphine peut laisser place à l'introduction comme ça de bactéries ou de parasites, justement. Donc, faites attention.
Ben effectivement, donc il y a des gens qui, comme je pense qu'on avait même déjà discuté ensemble, Mel, ils s'étaient piqués avec une espèce en joint dans le sable ou en joint dans la terre et la bactérie mangeuse de chair est comme activée après ça. Donc, tu sais, la bactérie mangeuse de chair, c'est une bactérie qui est méconnue, une bactérie qu'on ne sait pas vraiment toujours de la manière que la personne l'a attrapée. Des fois, c'est parce qu'on s'est coupé, des fois, on s'est piqué. Des fois, c'est même, je dirais même, excuse-moi l'expression, act of God. La personne, boum, pouf, ça se déclare, puis je ne sais pas d'où est-ce que je l'ai attrapé. C'est une bactérie qui, bien souvent, en dedans de nous, elle se crée une mutation, et à ce moment-là, devient une bactérie, une super bactérie, où est-ce qu'il n'y a aucun antibiotique qui peut vraiment s'en débarrasser. Et elle avance beaucoup plus vite que notre capacité à la combattre, qui crée que les dommages associés à la chair font en sorte qu'ils sont irrécupérables et, bien souvent, emmène à une certaine amputation.
Puis ce qui n'est pas évident non plus, Marc, des fois, c'est qu'on nous dit, tu sais, faites attention à la surface, tu sais, c'est verdâtre ou c'est comme épais, que ça ressemble à une genre de soupe au pois. On mentionnait ça dans un article. Tu sais, soupe au pois, je peux comprendre, mais des fois, c'est parce qu'on ne voit pas le fond de nos lacs. Fait qu'on dirait qu'on a comme de la misère à savoir si c'est possible de se baigner là-dedans, des fois.
Mais comme je vous dis, une bactérie, c'est inodore, incolore, ça n'a pas de goût. Bien souvent, on va voir de l'eau qui... Vous allez voir, là, il y a comme, voyons, des traces d'essence, une espèce d'arc-en-ciel là, qui sont une farce de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle des huiles naturelles biologiques. C'est pas nécessairement impropre, je dirais pas d'en boire, là, mais à se baigner dedans. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que l'eau paraît belle, ou même si elle est d'une différente couleur, qu'elle est foncée, ou même qu'il y a des grumeaux dedans, ça veut pas dire qu'elle était impropre à la baignade. Il faut vraiment faire attention à du moins, est-ce qu'il y a eu... D'aller se baigner après une forte orage, est-ce une bonne idée? La réponse est non. Est-ce que d'aller dans un lac où est-ce qu'il y a des algues bleu-vertes? La réponse est non. Est-ce que vous êtes dans un lac où est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux? OK? Des goélands, n'importe quel type, des canards, puis il y en a beaucoup. Et que c'est une eau qui est stagnante. Donc, vous êtes dans un lac qui a très peu de rivières qui se jettent dedans. Donc, c'est un lac qui devient plus une mare, qui ne bouge pas beaucoup. Bien, ça, c'est tous des risques qui augmentent la concentration de bactéries fécales ou d'autres types de bactéries qu'il ne faut pas être en contact avec. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut étudier idéalement avant d'aller dans les une baignade, surtout lorsque on a des jeunes enfants qui, comme tu dis si bien, ont plus de risques d'en prendre une gorgée.
On nous pose la question par texto, on parle de lac, on parle d'eau, la piscine. Si t'as des algues dans le fond de la piscine, puis que ta couleur est un peu, tu sais, c'est pas nécessairement translucide, tu vois pas nécessairement le fond, tu sais, il y en a qui acceptent de se baigner là-dedans, c'est bien carré, ouais. J'ai connu du monde qui ont fait ça. Est-ce que ça comporte, mettons, pour les enfants, justement, qui peuvent se baigner, d'avoir des problèmes après, genre diarrhée, maux de ventre, ces patentes-là?
Bon, et on reste toujours à risque si vous en prenez une gorgée, puis il y a des algues. Par contre, c'est pas des algues bleu-vert, là, c'est algues beaucoup plus photosynthétiques, là, qui juste le soleil va faire que votre eau va venir verte. Ça se nettoie très rapidement. Hein. Il y a des algicides qu'on mettait dans l'eau et en dedans de 24 heures, il n'y a plus rien. C'est sûr que je vous recommande pas de... Vous pouvez aller vous baigner, là, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous attaquer. Cependant, ça compte le même risque. C'est une eau qui est impropre à boire. Donc, si vous en avez une gorgée, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais à savoir, est-ce que ça va vous créer le même malaise que d'être dans un lac contaminé par un colis, contaminé par des algues bleu-vertes? L'effet est différent. Par contre, ce que je vous recommanderais, c'est de désinfecter votre eau. D'avoir une eau translucide pour la baignade est beaucoup plus rassurant qu'une eau trouble, une eau verte. Moi, je ne prendrais pas la chance d'y aller, mais à savoir, c'est tout risque de chacun de vouloir l'essayer.
Il y en a qui les tests d'eau, c'est pas trop leur fort. Fait qu'on va voir, c'est mi-clan, on peut se baigner pareil. Hey, j'écoutais les propos du Food Professor que Pierre Couture reçoit dans le MID à chaque semaine, Sylvain Charlebois, concernant la fraude alimentaire, comme quoi tous les consommateurs se font avoir au moins une fois dans leur vie par ça. Puis tu voulais nous jaser de ça en terminant, Marc.
Hey, une fois, plusieurs fois, je dirais peut-être même d'une manière hebdomadaire. La semaine dernière, Santé Canada sortait leurs statistiques en 2025 qui ont intercepté 150 000 kilogrammes d'aliments qui a été fraudulé par l'être humain. Donc, ils ont évité que ces aliments se rendent à la vente. Donc, il y avait, entre autres, de l'huile d'olive, certaines épices, des poissons. Et ce qui m'a le plus stupéfait, sur les 150 000 kilogrammes, 120 000 kilogrammes, c'était du miel. du miel fraudulé. Donc, du miel qui ont mal été étiqueté, qui va dire c'est un miel de, qui dit c'est un miel de tel type d'angle, de miel de Manuka, par exemple. Finalement, c'est un miel de trèfle ou qui ont été mal identifiés ou qui ont rajouté du sirop de maïs au travers pour en faire plus. Donc, vendre ton miel moins cher, mais qui a été adultéré, si on veut. Et moi, je trouve ça bizarre de faire une statistique où est-ce qu'ils ont intercepté 150 000 kilos, et ça a l'air beaucoup, mais sur les 150 000 kilogrammes, 120 000, c'est du miel. Bon, je veux dire, il y a 30 000 kilogrammes pour les autres ingrédients qui, selon moi, est boue. C'est seulement que la pointe de l'iceberg. Parce que quand on parle d'aliments adultérés, c'est pas juste dire, bien, ça a été dilué un peu. On l'a vu cet hiver, avec, ben, au printemps, avec le sirop d'érable. Ouais. Il y avait quelqu'un qui a été adultéré de sirop d'érable en même temps du sucre au travers pour en vendre plus, puis finalement, ça s'est su, puis ça crée une petite polémique. Mais ça, c'est un bel exemple d'adultérer un aliment. Pourquoi qu'on va adultérer un aliment? Pour une simple raison, c'est une raison économique. Vous en remarquerez là, que tous les aliments qui sont adultérés, c'est des aliments qui coûtent cher à l'épicerie. Donc, votre miel, là, c'est pas donné, hein? Ça coûte une fortune de miel. Donc, les gens disent, bon, comme je vais rajouter un peu de sucre au travers, d'autres sirops, ça paraîtra pas. Fait que je vais en vendre plus, au même prix ou moins cher. Fait que le profit vient en adultérant ton produit avec un produit qui coûte rien, comme du sucre, entre autres. Le sirop d'érable, c'est le but de ça. On va en mettre plus, on va en vendre plus.
Ça coûte à 12 piastres pareil, c'est ça le problème. Mais c'est pas Marc à l'Agence canadienne d'inspection des aliments de faire sa job puis de vérifier un peu plus ce qui se passe puis ce qui est vendu sur les tablettes, parce que des fois, j'imagine que ça doit prendre des années, des mois, je sais pas combien de temps, avant de trouver ces anomalies-là, puis même que des fois, on les trouve juste jamais.
Mais le problème, c'est qu'on teste pas assez. C'est de dire, ça devrait être une routine de tester et de demander à tous ceux-là, les importateurs, entre autres beaucoup. Des fois, les gens font confiance à un pays, on fait venir tel type de produit, il est adultéré, on ne l'a pas testé. C'est Santé Canada, de par leur propre initiative, de vouloir tester certains types d'aliments, puis à la source pour voir s'il y a des problématiques. Mais ils n'interceptent pas tous. Des fois, c'est des plaintes qu'ils ont, tel conteneur contient quelque chose qui pourrait être adultéré, on va le tester. Mais 150 000 kg est, selon moi, une infime partie des aliments qui sont adultérés, qu'on consomme à tous les jours. Les poissons, exemple, les poissons, bien souvent, qui viennent de tilapia, le pangasius, la morue, qui disent qu'ils viennent de tel pays. Quand on y arrive au Canada, on a le poisson avec la chair blanche. Il n'y a pas moyen de tester si tu es un tilapia, si tu es une morue, si tu es un pangasius. Bien sûr, on va l'identifier avec le mauvais poisson.
Ça doit être le plus cheap de la gang, là.
Exactement. Puis, bien, c'est ça qui fait en sorte que si on ne fait pas de test d'ADN, on ne saura pas si c'est le bon poisson qu'on alimente. Donc, c'est tout des petites affaires comme ça, des petits lapsus que si on ne teste pas, bien, le client va dire je continue à en acheter, puis je me fais avoir en bout de ligne. Donc, ça peut être aussi rajouter la mauvaise quantité de sel. Comme un exemple, les gens vont dire, ben dans mon... on avait le thon l'année passée qui était contaminé. Il y avait rajouté plus de sel que l'étiquette disait. Donc, disons, il y a 100 mg de sel, mais il y en a 300. Fait qu'ils en ont mis plus. Fait que ça, c'est une manière d'adultérer ou de rajouter de l'eau dans les poitrines de poulet pour que ça coûte plus cher, parce que l'eau coûte rien, mais on va
ça y ajoute un genre de volume, fait qu'au prix du kilo, puis tout ça, bien là, le monde va payer plus pareil. Puis faut pas oublier, tu sais, je pense à la viande rouge, mais on a eu près de 20% d'augmentation en un an sur les protéines, comme la viande puis le poulet, fait que le monde paye pour de l'eau. Quand même fascinant.
Exactement. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui fait qu'en bout de ligne, on se fait avoir un petit peu tout le temps, qui fait qu'on paye nos aliments un petit peu trop cher pour réellement ce qui est écrit sur la canne, l'emballage quelconque. Donc, c'est ce qu'on appelle une certaine...
Le but de faire de la fraude alimentaire, c'est de faire de l'argent. Et présentement, la fraude alimentaire est beaucoup plus payante à faire que la drogue et bien d'autres trafics qu'on peut voir. Et c'est dur à contrôler parce que, comme vous dites, il n'y a pas vraiment de surveillance accrue à part Santé Canada de le faire. Donc, si Santé Canada obligerait à tous les gens qui fabriquent certains types d'aliments, les plus à risque, ceux qui ont une plus grosse valeur ajoutée, bien, à ce moment-là, on pourrait vraiment dire sur l'aliment, tester que c'est un aliment, que c'est vraiment le bon aliment, que c'est la bonne quantité, le bon poids, les bons ingrédients et surtout la bonne protéine qu'on a dedans ou le bon sirop. Ouais, donc, c'est quelque chose qui, selon moi, est insuffisamment testé et qu'on se fait encore avoir trop souvent.
On n'a même pas parlé de réduflation en plus de ça. Marc Hamilton, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on se reparle dans deux semaines sans faute. Marc? Au revoir. Salut, Marc.
Il est parti.
Retour de Radio X.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.